des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission très spéciale car nous passons une heure avec Salman Rushdie, l'auteur des versets sataniques, des Enfants de minuit, d'Haroun et la mère des histoires, de Joseph Anton, ses mémoires magnifiques. Revient en librairie avec 2 ans, 8 mois et 28 nuits, publié chez Actes Sud. C'est un roman qui convoque les armes du conte, le monde fabuleux des djinns, mais aussi le chaos contemporain, le fanatisme et l'existence de Dieu. Et quand je dis djinns, je parle évidemment de ces génies, maléfiques ou bénéfiques, de la tradition orientale. Bonjour Salman Rushdie.
Bonjour.
Très heureux de vous avoir avec nous et j'en profite pour saluer mon partenaire Michel Zlotowski qui interprétera Salman Rushdie pendant l'émission. Alors la première chose que j'ai envie évidemment de vous demander, Salman Rushdie, c'est est-ce que vous allez bien ?
Well, apart from being 69 years old, I'm fine.
À part avoir 69 ans, je vais plutôt bien, oui.
Je vous dis ça parce qu'il y a une phrase au début du livre où l'un des personnages, le philosophe Averroès, qui s'appelait aussi Ibn Rushd, dit à propos de ses enfants, les appeler Rushdie serait les envoyer dans l'histoire avec une marque sur le front. Et évidemment, on ne peut pas ne pas penser que vous êtes le condamné à mort le plus célèbre au monde pour des mots que vous avez écrits. Cette marque sur le front, vous l'avez eue aussi.
Yeah, that was a joke.
C'était une blague.
Just to make clear that I understand that the name.
Je comprends que le nom Ibn Harushd est relié à mon propre nom.
And that his life
et que sa vie avait quelque chose à voir, grosso modo, avec la mienne, parce que c'était un très grand philosophe, c'était le médecin de la cour du sultan à Cordoue, et lui était persécuté aussi par les fanatiques de son époque. Et ses livres ont été brûlés, il a été exilé. Plus tard, il a été réhabilité. Mais je me suis dit que j'y connais quelque chose.
Et
ça m'a intéressé d'écrire quelque chose à son sujet. La vérité, c'est que il y a un aspect autobiographique, un début, un point d'origine. Mais quand j'ai commencé à écrire ce personnage, il s'en départit de cette autobiographie. Il devient lui et non pas moi. Je crois que c'est ça la fiction. On commence toujours avec un lien personnel à quelque chose, mais l'action imaginative, c'est le saut vers autre chose, quelque chose d'inventé. Donc oui, j'aime beaucoup Ibn Rushd.
Alors, vous avez raconté tout cela dans vos mémoires, hein, Joseph Anton, qui était des mémoires à la troisième personne, d'ailleurs, magnifique texte, où vous vous rappeliez, voilà, par un beau matin ensoleillé de 1989 à Londres, vous devez vous rendre à une messe en l'honneur d'un ami disparu, l'écrivain Bruce Chatwin, et là le téléphone sonne et une journaliste vous apprend que vous venez d'être condamné à mort par un ayatollah. Et je me souviens aussi, vous le racontiez avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, vous le disiez, c'est pas comique, mais au fond, c'est un petit peu comique. Et votre ami Paul Theroux, autre romancier, vous glissait, une fois arrivé à la messe, « Si je comprends bien, la semaine prochaine, c'est pour toi que nous revenons. » Alors, vous avez raconté hein, cette course-poursuite de 8 ans que la fatwa va déclencher, 8 ans de combat, de peur, de rage, de courage. Je voudrais juste vous demander tout à fait simplement si, au fond, on est 28 ans après maintenant. Est-ce que vous y pensez encore chaque jour ou est-ce que tout ça s'est évanoui ?
Non, je n'y pense que lorsque les journalistes me posent des questions à ce sujet. Sinon, j'ai eu une vie parfaitement normale depuis 17, 18 ans maintenant. C'est une partie importante de ma vie, mais c'est un chapitre qui est clos, pour moi en tout cas, malheureusement pas pour le monde, parce que, comme vous ne le savez que trop bien en France.
Alors ces mémoires, je le disais, elles étaient écrites à la troisième personne, comme si vous faisiez un pas de côté, et vous expliquiez d'ailleurs dans ce texte que c'est uniquement en écrivant de la fiction que vous pouviez vous échapper de cet espace noir, de dark space, vous disiez, qui était justement le fait de vivre avec cette fatwa. Est-ce que la fiction a encore aujourd'hui ce pouvoir-là de nous sortir de cet espace noir? Je
crois que le monde est devenu tellement surréaliste, il est devenu tellement étrange
que
la non-fiction ne sait pas comment le traiter. Parce que le monde n'est plus quelque chose de non-fictionnel. Le monde est devenu surréaliste.
I don't know, René Magritte or Luis Buñuel.
Pensez à Magritte, à Buñuel.
You would be telling more of the truth.
Je crois que vous seriez plus en train de dire la vérité plutôt que si vous étiez un journaliste.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça, surréaliste? Évidemment, pour un Français, le mot connote un mouvement littéraire aussi, mais qu'est-ce que vous sous-entendez quand vous parlez d'un monde devenu aujourd'hui surréaliste?
Well, I think the world doesn't make sense very
Je crois
much
que le monde ne fait plus sens aujourd'hui.
Et
des choses bizarres, étranges se produisent tous les jours. Et il faut les accepter comme étant normales. Comme Donald Trump, par exemple. Voilà une créature surréaliste qui s'est échappée et qui est arrivée dans les journaux.
Ce
que je dis, c'est que le monde est devenu très étrange. Le monde change de façon extrêmement radicale, extrêmement rapidement.
And it's not only political, you
know, c'est pas simplement sur le plan politique, c'est aussi sur le plan technologique.
Est-ce que dans ce monde-là, surréaliste, est-ce que la fiction doit s'adapter à ce monde surréaliste ou est-ce qu'elle doit prendre vraiment le contre-pied? Parce que j'ai l'impression que pour le lecteur contemporain aujourd'hui, ils se méfient de la fiction. Ils veulent du réel, ils veulent de l'autobiographie. Hein, on a besoin de ça. Il y a une méfiance, j'ai l'impression, vis-à-vis
de la fiction. Question that we live in an age
Absolument, nous vivons à une époque où les gens croient ce qu'ils pensent être factuel plus que ce à quoi on parle en tant que fiction. C'est malheureux, c'est déplorable pour les auteurs de fiction. Mais je peux en débattre dans les deux directions. Des deux façons, ça peut fonctionner. Le roman que j'écris après celui-ci, je suis absolument au milieu de l'écriture, c'est totalement réaliste. Ah, je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit. Hein. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une façon d'approcher les choses en utilisant les armes du réalisme. Et il y a une façon d'approcher les choses avec le surréalisme, et ça fonctionne dans les deux sens. C'est une façon de le faire correctement. Et ce livre-là, j'ai poussé sur le bouton plus sur le surréalisme, aussi loin que faire se peut. C'est un monde très surréaliste. Ce que je voulais faire, c'est prendre la tradition du fantastique qui vient de l'Orient et le faire rencontrer une tradition du fantastique qui existe en Occident. Voir ce qui arrive quand il y a cette collision. Voir quand on prend Kafka et les Mille et une Nuits. Prendre Gogol et Buñuel et permettre à cette sensibilité-là de rencontrer les djinns.
Est-ce que ça aussi, c'est une façon d'être un écrivain surréaliste? Est-ce que vous revendiqueriez dans ce livre-là comme un écrivain surréaliste qui manie finalement deux réalités et qui les met sur un autre plan?
C'est quelque
chose d'émotionnel. Quand j'ai fini les mémoires, j'avais passé plusieurs années à tenter de faire rien d'autre que de raconter la vérité. Et j'étais fatigué de la vérité. J'ai dit que ça suffit. Eh bien, je vais inventer des choses maintenant. Et je voulais aller à l'autre, au côté opposé du spectre, et de faire quelque chose de très fictif, de fictionnel, de quelque chose de très construit. Mais de parler du monde réel, parce que, oui, ça utilise toutes ces techniques des mille et une nuits, etc. Mais je ne voulais pas écrire quelque chose de folklorique. Je voulais écrire quelque chose sur le monde au sein duquel nous vivons aujourd'hui. C'est pour cela que c'est basé sur une ville extrêmement réaliste, New York. Et je voulais que ça soit comme un conte de fées, mais sur le monde réel.
C'est vrai que je me souviens d'une phrase dans Joseph Anton où vous disiez, Salman Rushdie, aujourd'hui, dans le roman, le politique et l'intime ne peuvent plus être séparés. Et vous ajoutiez, désolé, mais on n'est plus autant de Jane Austen qui pouvait écrire toute son œuvre pendant les guerres napoléoniennes sans jamais y faire allusion. Exactly. C'est vrai qu'on a changé d'époque.
Yeah, no, it's true that it used to be that the novel could be very
parochial. Pouvait être vraiment local, paroissial quasiment. Une femme qui vivait dans la France provinciale, fatiguée de son mari, et décidant d'avoir une relation.
Bon,
voilà. Et c'était Madame Bovary.
Il y a un groupe
de filles dans un petit village anglais qui cherchent des maris. Bon, ça c'est Pride and Prejudice, par exemple.
The world is not like that.
Mais le monde n'est plus comme ça, c'est fini. Nous ne vivons plus dans des petites boîtes fermées à double tour.
Ce que vous voulez dire, c'est que le travail s'est complexifié pour l'écrivain contemporain par rapport à Flaubert, puisque vous évoquiez Madame Bovary.
Yes, I think it's much harder now.
Oui, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui.
Because I think there's
parce que je pense qu'il y a quelque chose dans la nature du roman qui souhaite, qui veut être comme Madame Bovary. Qui veut parler d'une histoire dans un endroit et point final. Ça ne veut pas parler de tout. Ça doit être au sujet de quelque chose de précis.
Mais
ce qui se produit, c'est que notre monde est devenu tel que d'autres histoires, d'autres récits envahissent notre récit. Lorsque on ne vit plus dans ces petits mondes séparés. Moi, j'habitais à New York au moment de l'attaque du 11 septembre. Et ce jour-là, ce qui était très clair, c'était que le récit du monde arabe avait fait une collision avec l'histoire et le monde de New York. Et après, on ne pouvait plus raconter l'histoire de New York sans comprendre les autres histoires.
Mais Salman Rushdie, c'était la même histoire. Au fond, c'était pas deux histoires qui entraient en collision. C'était la même histoire, l'histoire de la guerre et des nouvelles guerres d'aujourd'hui.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que oui, nous nous sommes rendus compte que c'était la même histoire. Que cet acte colossal de violence nous a prouvé que c'était la même histoire. Qu'on ne pouvait pas faire la différence entre cette partie de l'histoire et telle autre partie de l'histoire. Et nous vivons dans ce monde où tout est en collision avec tout sans cesse. Alors, comment est-ce qu'on peut y faire face dans un roman ? Parce que, bien sûr, le grand problème de ce qu'on appelle maintenant le roman mondial, global, c'est en essayant d'être tout à fait à la fois, et donc ça finit par être nulle part. Et pour moi, la solution, c'est de faire encore plus attention au sujet de du lieu. Vous savez, ça ne peut pas être comme Monsieur Geronimo dans mon livre, ce héros qui flotte au-dessus du sol. Ça doit être vraiment enraciné. Je fais énormément d'efforts pour enraciner mes histoires. Quels que soient les lieux, elles doivent avoir ce sentiment de réel.
Je voulais savoir, puisque vous avez parlé de Monsieur Geronimo, je vais évidemment poser aussi l'intrigue une fois qu'on aura balayé ces questions, mais Monsieur Geronimo, effectivement, ce jardinier qui vit à quelques centimètres du sol, ce qui lui pose aussi des problèmes quand il fait l'amour. On en parlera avec vous, parce qu'il est beaucoup question de sexe aussi dans ce livre, et des pouvoirs aussi du sexe. Mais oui, non, vous êtes d'accord.
Body of work,
dans mon corpus,
there is very little sex.
Il y a très peu de sexe.
There's in the Moore's Last Sigh. The narrator describes
le narrateur décrit ses parents en train de faire l'amour. Et il le décrit avec un embarras terrible. Parce que, bon, vos parents ne sont pas censés avoir faire l'amour. C'est vraiment terrible de savoir que ses parents font l'amour. Mais à part cette scène, il n'y a quasiment pas de scène de sexe dans mon livre, dans mes livres, à part dans celui-ci. Et puis, la plus grande partie est là simplement pour un but comique. Vous savez, le but du fait d'écrire sur le sexe dans mon livre, c'est que ça soit drôle. Et je préfère que le sexe que je décris soit drôle volontairement plutôt que involontairement.
Alors, avant de revenir à Monsieur Geronimo qui donc décolle du sol, moi je voudrais être très terre à terre avant de passer à votre roman, Salman Rushdie. Je voudrais savoir s'il n'y a pas une autre guerre en fait qui se déroule aujourd'hui, qui serait une guerre des mots, qui serait une guerre sur le sens des mots. Et évidemment, l'écrivain que vous êtes est extrêmement concerné par cette guerre. Par exemple, aujourd'hui, c'est un mot qui en France s'est imposé, c'est le mot islamophobie. Et vous avez déclaré dans une interview, Salman Rushdie, que ce mot-là, vous le refusiez, car c'était un mot malhonnête. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec cette analyse, en partant de ce mot, que nous sommes aujourd'hui en plein dans une guerre des mots. Est-ce que c'est pas ça la principale guerre, et pas celle des djinns contre les hommes ?
C'est toujours au sujet des mots. Les hommes politiques tentent toujours de faire en sorte que les mots aient le sens qu'ils veulent leur donner.
Et
la guerre contre la mauvaise utilisation des mots, c'est quelque chose que les écrivains peuvent faire. Et la raison pour laquelle je n'aime pas le mot islamophobie, c'est parce que ça semble de mélanger deux choses qui n'ont rien à voir. La première, c'est le racisme. Et la seconde, c'est la critique des idées. Et ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Si je n'aime pas votre religion, je devrais pouvoir le dire. Si vous pensez que la Terre est plate, je devrais pouvoir vous dire que vous êtes un crétin. Mais si quelqu'un vous attaque parce qu'il n'aime pas le fait que vous pensiez que la Terre est plate, ce n'est pas bien. Il y a une différence entre les attaques racistes et les attaques intellectuelles. Et je crois qu'on ne peut pas protéger les idées. Vous savez, les religions sont des idées. Elles ne sont pas immunes à la critique, mais il faut protéger les êtres humains.
Une dernière question précise, Salman Rushdie. Vous dites que si vous aviez écrit aujourd'hui les versets sataniques, qui étaient une fiction, je le rappelle, c'était une fiction sur l'immigration, notamment, que si vous publiez aujourd'hui, vous ne seriez pas soutenu comme vous l'avez été à l'époque. Pourquoi vous dites ça ?
Je crois qu'il y a eu un recul intellectuel terrible. Désir de faire des compromis au sujet de choses pour lesquelles il ne devrait pas y avoir de compromis. Il y avait déjà à l'époque des gens qui m'avaient attaqué et qui ont dit que je l'avais fait exprès, etc.
John le Carré, notamment, pour ne pas le citer, c'est moi qui le cite.
Oui, je dois dire que, pour être juste, je le connaissais un petit peu, je l'aimais bien, j'aime bien son travail, ses œuvres. Et j'aurais beaucoup aimé que nous n'ayons pas eu ce débat. Il en est venu à penser cela aussi. Et en quelque sorte, il s'est excusé, en quelque sorte. Il a admis qu'il avait pu avoir tort.
Est-ce que le rôle du romancier, Salman Rushdie, dans cette guerre des mots, puisque votre arme, votre outil, ce sont précisément les mots qu'on agence pour faire des fictions, est-ce que c'est de remettre une hiérarchie? Vous parliez de surréalisme tout à l'heure. Qu'est-ce que peut faire le romancier de ce monde surréaliste? Est-ce qu'il est obligé de remettre les choses dans l'ordre ou au contraire d'aller, comme vous l'avez fait, dans encore plus de surréalisme et même d'inventer d'autres mondes?
The point is why surrealism at all?
Alors, pourquoi le surréalisme? Je crois qu'une des choses que j'aime au sujet du surréalisme, c'est que les êtres humains qui vivent dans le monde tel que nous se sont habitués aux choses. Et le résultat, c'est que les surréalistes disaient que une sorte de voile couvre notre vision et nous ne voyons plus le monde tel qu'il est parce qu'on est tellement habitué à le voir. Et donc l'idée du surréalisme était d'enlever ce voile en utilisant des tactiques de choc, d'arracher ce voile pour que l'on puisse voir le monde tel qu'il est véritablement, ce qui est merveilleux et terrible en même temps. Et je crois que je paraphrase en quelque sorte André Breton. Je crois que c'est une très belle idée de ce que l'art est capable de faire. Ça peut nous permettre de voir le monde tel que nous oublions de le voir.
Alors, vous allez me dire si je me trompe ou non. Je vais poser un petit peu les contours de ce nouveau roman, Salman Rushdie. 2 ans, 8 mois et 28 nuits, c'est-à-dire 1001 nuits, si on fait le compte, ça a été dit, je ne fais que répéter. Alors, ce livre met en scène un grand combat. C'est un livre, vous l'avez dit, qui fait se catapulter le conte de fées et le réel très contemporain, puisqu'on assiste à l'ouragan Sandy, notamment. L'histoire des idées est aussi présente, puisque le grand philosophe Averroès, Averroès étant le nom latinisé de Ibn Rushd, qui est son véritable nom. Il est là aussi, on va suivre ses errances intellectuelles et amoureuses, et puis on découvre une djinn, puisque le monde des djinns, c'est-à-dire des génies, je ne sais pas d'ailleurs comment les définir, ce sont des génies,
supernatural beings who
are
not
êtres surnaturels qui ne sont pas des anges.
They're nothing to do with angels and devils.
Ils n'ont rien à voir avec les anges et les démons.
Ils sentent la fumée, ils sont
faits
de fumée.
Of smokeless fire.
Faits d'un feu sans fumée.
They have various characters. First, they're powerful.
Tout d'abord, ils sont extrêmement puissants.
They can grant wishes and so on.
Ils peuvent accorder tous vos vœux.
They can alter their size.
Ils peuvent changer de taille.
They can enter inside us.
Ils peuvent pénétrer au sein de notre propre corps. Ils peuvent devenir gigantesques, se métamorphoser en monstres.
And some of them are,
et certains d'entre eux
some of them are bad and some of them
sont
good,
mauvais,
but all of them are mischievous.
Mais tous sont vraiment très malins.
Alors on croise Dunia, hein, qui est une princesse djinn, spécialiste en foudre, en éclairs, si je puis dire, qui, après être tombée amoureuse donc d'Averroès, va revenir dans le monde d'aujourd'hui pour lutter contre les mauvais djinns obscurantistes qui veulent asservir la terre une fois pour toutes. Alors on croise cette djinnia, et puis Monsieur Geronimo, dont on a un petit peu parlé, qui est jardinier, qui constate un jour que ses pieds ne touchent plus le sol et qui va être entraîné dans ce pays des djinns, le Péristan. Est-ce que j'ai bien posé l'intrigue, Salman Rushdie?
I think well.
Oui.
I think that's a very good summary.
C'est un excellent résumé.
I think that in the way the book developed.
La façon dont le livre s'est développé, ces deux personnages,
Mr. Geronimo,
Monsieur Geronimo
and the fairy princess Dunia,
et la princesse Dunia.
If you work it out, she's his great, 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 great.
Et en fait,
great,
c'est son arrière-grand-mère.
But apparently,
mais apparemment, les djinns n'ont pas de problème avec l'inceste. Leur histoire d'amour devient un petit peu le cœur du roman.
And really what the book suggests,
et ce que le livre suggère, parce que la descendance de Dunia, de cette djinna,
many of them would be amongst us, as it were.
Dont la plupart vivraient parmi nous. On peut les reconnaître parce qu'ils n'ont pas de lobe à l'oreille.
On va regarder dans la pièce, non?
Mais
l'idée que beaucoup d'entre nous ont un petit peu de la magie des djinns en eux, ce que je voulais suggérer là, et ça devient utile dans cette guerre, l'aspect magique des êtres humains leur donne la force de résister. Et je pensais, ce que je tentais de dire véritablement, c'est que les êtres humains ont, nous avons, au sein de nous-mêmes, des ressources et que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Nous sommes plus forts que nous le pensons.
Et
lorsque les époques de crise surviennent, nous trouvons au sein de nous-mêmes des forces dont nous ne connaissions pas l'existence. C'est ce que j'essayais de dire avec cette idée du djinn au sein de nous-mêmes.
Alors on en parle tout de suite avec vous, on va plonger dans cette djinn avec vous, Salman Rushdie. Mais je voudrais qu'on écoute d'abord, et on va marquer une petite pause, votre premier choix musical, évidemment, c'est un choix qui fait sens. Vous avez choisi un extrait de Scheherazade de Rimsky-Korsakov, sous la direction de Daniel Barenboim, par l'Orchestre Symphonique de Chicago. Alors Salman Rushdie, nous sommes avec vous pour une heure, presque une heure. Hein, vous publiez votre nouveau roman, 2 ans, 8 mois et 28 nuits chez Actes Sud. C'est traduit de l'anglais par Gérard Medal. On vient d'écouter cet extrait de Scheherazade, hein, de Rimsky-Korsakov. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander pourquoi ce choix musical, puisque Scheherazade est l'un des personnages au fond de ce roman. En tout cas, elle est convoquée par la plupart des personnages dès l'exergue, avec cette citation donc tiré des mille et une nuits elle vit l'aube approcher et discrètement, elle se tut. Elle était forcément là, dans l'histoire, chez Razade, à partir du moment où on se met à convoquer l'Orient en Occident, c'est ce que vous faites.
Well, you know, Scheherazade is the great myth of the storyteller.
C'est le grand mythe du conte,
the
raconteur de contes, la femme qui raconte d'histoires pour empêcher la mort.
And by doing so,
et en le faisant, elle civilise les barbares.
So it's both a story about
donc c'est à la fois une histoire sur un courage incroyable et un génie
and about the moral force of
et aussi sur la force morale de la littérature.
Which we can argue about whether literature
on peut en discuter, est-ce que la littérature a ou pas cette force
because you could argue that there
parce qu'on pourrait dire
qu'il
n'y a rien de foncièrement bon au sujet des écrivains. Et on pourrait donner comme exemple Louis-Ferdinand Céline.
Great writer, bad person.
Grand écrivain et très mauvaise personne.
I wanted Scheherazade musically because
je voulais Scheherazade, extra musical, pour honorer cette femme, cette raconteuse d'histoire qui est notre mère à tous.
Vous parlez de sa sœur aussi qui est là, qui écoute l'histoire, la sœur de Scheherazade qui va donner son nom à cette lignée de djinns.
Dunyazade,
exactement.
The very underrated
Dunyazade,
sister.
Cette sœur dont on ne parle pas suffisamment.
Oui, qui est là au pied du lit hein, et qui écoute l'histoire.
Yes, she's the audience at voyeur.
Elle, c'est le public et le voyeur. Mm.
Et Dunya dit à Averroès, à Ibn Rushd, à qui elle lui demande « raconte-moi des histoires », elle lui dit, je cite Dunya, « il était donc une sorte d'anti-Scheherazade », lui dit Dunya. Exactement l'inverse de la narratrice des Mille et Une Nuits, ses histoires à elle lui sauvaient la vie, alors que les siennes à lui mettaient sa vie en danger. Là, c'est encore une blague, c'est un autoportrait de Rushdie en
well,
rouge.
Not only me, you see,
c'est pas seulement moi. Nous vivons à une époque de l'anti-Scheherazade. À travers le monde entier, aujourd'hui, il y a de grands écrivains dont les écrits les mettent en danger. Le problème ne diminue pas, il s'accroît.
And not only in the Islamic world,
pas simplement dans le monde islamique, mais aussi en Chine. Je voulais le dire que l'écriture n'est pas simplement quelque chose qui vous rend plus en sécurité, mais non, ça vous met beaucoup plus en état de risque. Moi, j'étais impliqué beaucoup avec des organisations qui tentent de défendre les auteurs en danger. Mais c'est pas seulement moi.
Constamment, quand on regarde votre œuvre, Salman Rushdie, et même d'ailleurs dans les versets sataniques, on est frappé par l'importance que vous donnez au conte, à la fantaisie. Et c'est encore le cas dans ce nouveau roman, un homme en lévitation qui sent la fumée quand il fait l'amour, et qui descend d'un philosophe qui questionne la religion, et à la fois est d'une sorte de déesse. Est-ce que les adultes, comme les enfants, je pense à ça parce que, en 1989, vous le racontiez dans vos mémoires, quand vous apprenez cette fatwa qui tombe, vous regardez votre fils qui vous avait demandé de lui raconter une histoire ce jour-là. Est-ce que les adultes ont besoin de contes comme les enfants ?
Oui, je crois que oui. Une des choses que tous les enfants savent, et ils le savent par instinct, que les contes ne sont pas vrais. Les
histoires sont faites.
Que ce sont des histoires qui sont créées, racontées de toutes pièces.
Et que
le fantasme, c'est la forme, la fantaisie, c'est la forme la plus naturelle qui soit.
Madame Bovary et le flying carpet
Bovary et le tapis volant, ce sont deux créations totales. Ils sont aussi fictionnels l'un que l'autre, aussi fictifs l'un que l'autre. Donc en grandissant, nous oublions.
To my mind, one of the examples one could give from the world
des exemples qu'on pourrait donner dans le monde de la peinture, si vous êtes devant le tableau de Van Gogh, La Nuit étoilée, et que vous le comparez à une photographie de La Nuit étoilée,
la
peinture ne ressemble pas du tout à une nuit étoilée. Et pourtant, c'est un grand tableau de la nuit étoilée. Ce que je veux dire, c'est que la différence entre le réalisme et le surréalisme, c'est la différence entre la photographie et Van Gogh.
Quel rôle doit donner le lecteur quand il vous lit à tous les clichés du conte oriental que vous reprenez? Vous en avez parlé, là, le tapis volant, la lampe d'Aladin, même les djinns hein, qui sont hein, dans les mille et une nuits. Est-ce que c'est pour mettre le lecteur occidental en territoire familier, parce qu'il connaît ce tapis volant, ou est-ce que, au contraire, ce ne serait pas pour montrer votre volonté de dire qu'on peut réécrire sans cesse les histoires et refaire des histoires à partir des histoires pour mieux résister aux discours figés, unilatéraux, radicaux et donc dangereux qui sévissent aujourd'hui.
C'est très bien dit.
C'est
exactement ça.
And also, what I wanted to do is to say
il y a ces traditions différentes de l'écriture non réaliste, certaines venant de l'Orient, d'autres de l'Occident. La tradition occidentale inclut le surréalisme français, les écrivains russes comme Gogol, Bulgakov, des écrivains de langue allemande comme Kafka, Günter Grass, des latino-américains comme le réalisme magique. C'est exactement la même sensibilité. Et la sensibilité des Mille et Une Nuits est semblable à cela. Et je me suis dit, mélangeons ces mondes, permettons le monde de la fable orientale de rencontrer le monde surréaliste occidental et de voir ce qu'il en sort. Et le résultat, eh bien, c'est ce livre.
Quand vous dites « see what happens », on va regarder ce qui va se produire, vous revendiquez une part d'expérimentalité dans votre travail de romancier ?
Oui, j'ai utilisé...
Dans ce livre, j'ai utilisé cette technique plus qu'auparavant, de façon délibérée. J'ai laissé l'histoire se dérouler pour voir où elle allait. Bien sûr, c'est une façon inefficace d'écrire, parce que très souvent, on se trouve dans une impasse. On écrit un certain nombre de pages et puis non, j'aime pas ça, c'est pas là où je veux être. Et puis il faut faire demi-tour et puis il faut essayer une autre direction. Mais au mieux, ça vous permet de trouver des choses que qu'autrement on n'aurait pas trouvé. Et ce livre véritablement en bénéficie.
C'est une technique que vous laisserez tomber pour le prochain livre, hein, puisque vous nous avez dit que le livre serait beaucoup plus réaliste le prochain.
No, but I'm becoming braver.
Je deviens plus courageux sur l'utilisation de ce genre de choses.
Laissez
l'écriture devenir un acte de découverte.
Votre livre, c'est un plaidoyer pour la fiction. Et pourtant, il y a un personnage, c'est Blue Yasmine, qui dit ça de la fiction. Ce que je crois, c'est que toutes ces histoires sont des fictions. Même celles qui affirment s'appuyer sur des faits, comme de savoir qui était là le premier et quel dieu l'emporte sur quels autres. Ce ne sont que des chimères, des contes. Les fables réalistes et les fables fantastiques sont toutes aussi fabriquées les unes que les autres. Et elle termine là-dessus. Voilà notre tragédie, disait-elle. Ce sont nos fictions qui nous tuent. Mais si nous ne les avions pas, cela nous tuerait peut-être aussi. Je comprends la deuxième partie de la phrase, mais la première, ce sont nos fictions qui nous tuent. Je voudrais savoir ce que ça signifie.
It's about God.
Ça parle de Dieu.
Il y a un autre point dans l'histoire.
Lorsque un autre personnage suggère que ce qui se passe dans le monde, c'est que les êtres humains ont inventé Dieu. Et cette invention leur a échappé.
Et
s'est mise à les poursuivre. Et de façon délibérée, compare Dieu à l'ordinateur dans Terminator.
Donc Skynet.
C'est très relié au Sky God, au Dieu. Une machine que les hommes ont inventée et qui les dépasse en puissance et qui se met à les détruire. Voilà, c'est de ça que ça parle. On peut créer des fictions qui deviennent destructrices, qui vous détruisent.
Donc, maintenant, vous m'avez expliqué. Donc, j'ai compris maintenant la première partie de cette phrase, mais ça veut dire, Salman Rushdie, qu'au fond, tout se passe comme si vous mettiez sur le même plan, dans votre travail littéraire, les histoires magiques, les mille et une nuits, et les controverses sur Dieu. Parce qu'il y a toute une partie de duel rhétorique entre Ibn Rushd, Averroès, et Al-Ghazali, son rival, qui le prend pour un incroyant dont on doit et dont il faut brûler les livres. Au fond, les textes religieux sont des fictions aussi. Et le romancier a le droit de les prendre et d'en faire ce qu'il veut.
No, I mean, I think that it seems to me to be obvious
that human beings invented these stories. Que les êtres humains ont inventé ces récits, ces histoires. Et on pourrait dire qu'ils les ont inventés pour d'excellentes raisons. Les grandes questions de la vie et de la philosophie sont, ben, parmi les premières, c'est d'où venons-nous ? La question des origines. Et la seconde, c'est maintenant que nous sommes ici, comment devons-nous vivre ? C'est la question de la morale. Et ce que les religions font, c'est de raconter des histoires pour tenter de résoudre ces questions, de répondre à ces questions. La question des origines et la question de l'éthique. Bah, c'est une entreprise extrêmement sérieuse, grave. Je crois qu'il faut reconnaître que ce ne sont que des récits. Ce ne sont pas des commandements.
Et ça, c'est le rôle du romancier, de rappeler cette vérité-là. Qu'on peut fournir des contes, d'autres contes aux adultes à partir de ces contes originels.
Je ne suis pas en faveur de décréter ce que doit être le rôle du roman, de l'écrivain. Quoi que ce soit que je dise, il y aura un autre roman, un autre romancier qui dira « mais c'est pas ce que je veux faire moi ». C'est ce que j'ai essayé de faire moi, personnellement. Mais parfaitement raisonnable que quelqu'un d'autre fasse autre chose.
Malgré, Salman Rushdie, les dangers que ça implique, puisque dans Joseph Anton, dans vos mémoires, vous rappeliez, je reviens un instant sur les versets dits sataniques, parce qu'en fait on les a appelés comme ça, mais c'est une appellation que les hommes leur ont donnée, que en fait c'était sur quelques versets dont certains croyants contestent l'authenticité. Et vous, vous avez joué, en fait, avec ces versets-là. Donc le romancier, il a le droit de jouer avec tout ça comme s'il s'agissait d'une matière seulement littéraire.
Of course.
Ouais. Évidemment.
Mm. I mean, otherwise, you know, we're all silenced.
Autrement, nous serions tous réduits au silence.
And then you have to ask who gets to tell us what we can say.
Après, la question qui se posera, c'est qui nous donne l'autorisation de parler.
Skynet.
Yes, exactly.
Or Sky God.
Yes, the Skynet or the Pope.
Skynet ou le Pape.
Camus, dans son discours de Stockholm, disait « Créer aujourd'hui, c'est créer dangereusement. Toute publication est un acte, et cet acte expose aux passions d'un siècle qui ne pardonne rien. » On a l'impression qu'il écrit ça aujourd'hui. Comment la fiction, Salman Rushdie, peut-elle avoir le dernier mot face à ces mots, M-A-U-X, qu'elle condamne ?
You know, I think there's a sense in which literature is very strong.
Je crois que... Dans un certain sens, la littérature est extrêmement forte. Dans un autre sens, elle est extrêmement faible. Regardons l'histoire. Par exemple, le poète Ovid a agacé César, Auguste César.
On ne
sait même pas ce qu'il lui avait dit qu'il l'avait agacé. Mais il a été exilé. Et il n'a jamais eu le droit de retourner à Rome. Et pourtant, la poésie d'Ovid a vécu bien longtemps après l'Empire romain. On peut dire que Mandelstam, en Union soviétique, a écrit un poème que Staline n'a pas apprécié. Mandelstam est mort dans un camp de travail. Et la poésie de Mandelstam vit beaucoup plus longtemps que le monde soviétique. Lorca est un exemple semblable en Espagne. Donc, ce que je dis, la littérature est parfaitement durable. Les écrivains eux-mêmes sont très vulnérables et très faciles à détruire.
Mais c'est la littérature qui gagne à la fin.
À la fin. J'aimerais bien aussi que les écrivains puissent durer un peu plus longtemps.
Oui. On va faire tout pour. Votre héros qui vient de Bombay, Monsieur Geronimo, est perçu par les Américains, hein, puisqu'il vit aux États-Unis, comme un Indien, mais pas un Indien de Bombay. Un Indien, ça vous fait rire, moi aussi, ça me fait rire. C'est très drôle hein, aussi ce roman, il faut le dire. Mais un Indien d'Amérique. D'ailleurs, il l'appelle Geronimo. Et vous écrivez, il était facile aux Américains de voir en lui l'Ouest sauvage et de le traiter avec tout le respect réservé aux survivants d'un peuple que l'homme blanc avait exterminé. À qui s'adresse-t-il ce livre ? Aux Occidentaux ou aux Orientaux, au fond ?
Je ne
peux pas répondre à cette question.
Pourquoi ?
Je ne
sais pas, parce que je ne connais pas la réponse.
Je me souviens de la grande African-American writer Ralph Ellison,
de Ralph Ellison, le grand écrivain afro-américain, qui a écrit un très grand roman, L'homme invisible. On lui a posé la question, pour qui avez-vous écrit? Vous avez écrit pour la communauté noire ou pour les blancs?
Et
sa réponse était belle. Il a dit, j'écris pour la communauté noire et qui que ce soit au-delà d'elle.
Vous savez,
le but de l'humour, ou les gens comprennent la blague ou pas. Et la satire est une forme d'humour qui a véritablement une grande alacrité. Les gens la comprennent ou pas. Si vous êtes comme moi, ce qu'on appelle aujourd'hui un Indien américain, ce n'est pas la même chose qu'un Américano-Indien. Mais bon, il y a un mélange là.
Alors, je vous vois rire, Salman Rushdie, et c'est vrai que la dimension enfantine, et quand je dis ça, c'est un compliment, hein, est très présente dans le livre. J'ai l'impression aussi que c'est à la fois un livre sur le père, hein, à cause de Ibn Rushd, et c'est un livre aussi pour les peut-être l'enfant que vous avez, enfin qui a grandi, l'enfant que vous êtes aussi. Votre père, vous le rappeliez aussi hein, dans ses mémoires, était fasciné par la naissance de l'islam, alors que c'était un homme sans Dieu. Il avait même voulu réécrire le Coran, réarranger le Coran, et personne, à l'époque, ne lui en faisait le reproche. Et je voudrais savoir quel est ce lien que vous faites entre toutes ces générations d'hommes rushdis, et où vous vous placez, parce que j'ai l'impression que l'enfance est restée vous, d'où les références à Harry Potter, les super-héros, toutes ces références, cette culture enfantine qui imprègne votre récit, qui le nourrissent en permanence.
Le but du conte de
fées,
c'est qu'il existe dans une terre marginale entre l'enfance et l'âge adulte.
And many of the best of these stories,
et les meilleures de ces histoires ne sont pas écrites pour les enfants.
Si
vous lisez Les Mille et Une Nuits, les enfants ne pourraient pas le lire. C'est écrit dans une langue extrêmement adulte et ça s'occupe de problèmes philosophiques et métaphysiques très adultes. Et il y a beaucoup de choses aussi qui sont, disons, un peu cochonnes. Il y a beaucoup de sexe. Il y a beaucoup de gens qui se conduisent très mal et très peu de religion. C'est quasiment un texte laïque. Mais c'est un texte adulte pour adultes qui utilise beaucoup des techniques des contes pour enfants. Vous l'avez dit vous-même, c'est une façon de réinventer l'innocence du lecteur.
Donc,
on lit avec un esprit très ouvert et véritablement c'est comme une ardoise vide et vous décidez si vous aimez ce que vous lisez ou pas. Le pari de la littérature, c'est que vous êtes tout seul dans une pièce et vous faites quelque chose comme une action privée. Et puis vous le mettez au public. Et soudain, ça devient un acte public. Et les gens décident pour eux-mêmes. Et puis, ils vous diront s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Mais de le faire, c'est comme quelque chose de vraiment très privé.
Mais ça, Salman Rushdie, c'est presque la définition de l'enfance. Quand on regarde un enfant qui joue, qui fait ses choses privées et qui invente un monde.
Je suis d'accord.
Oui, bien sûr. Les enfants, le désir du conte vient tellement tôt dans la vie. Une fois que les enfants sentent qu'ils sont aimés et en sécurité et nourris, ils disent « raconte-moi une histoire ».
Chez Nietzsche, le dernier stade, si je puis dire, de l'évolution, c'était l'enfant. Au fond, est-ce que vous aspirez, j'ai l'air sérieux comme ça, mais de vouloir aussi redéclencher cet esprit enfantin dans ce monde absolument sérieux? Vous mélangez sans arrêt les registres de langage, on croise à la fois les djinns, les super-héros, il y a ce dessinateur, ce cartooniste aussi qui s'exprime avec des « yeah, wow ». C'est vrai que vous catapultez aussi les niveaux de langage. Ça, c'est sous quelle influence? Est-ce que c'est aussi l'univers des contes de fées? Est-ce que c'est les séries télévisées? Quelle est la méthode, Rushdie, là-dedans?
Letting go.
Je ne sais pas, je laisse aller, tout simplement.
Je crois qu'une
des choses au sujet de l'enfance, c'est qu'ils sont d'un anarchisme naturel. Ils veulent connaître les règles. Ce que les enfants font toujours, c'est de tester les limites.
Mais
ils veulent aussi essayer, aller à la marge, aller aux limites. Et c'est ça la bonne littérature aussi. En tant que lecteur, les livres que j'ai beaucoup aimés sont ceux qui tentent d'aller aux limites. Ceux qui vont dans les bords, qui essaient d'aller au-delà. Et les enfants le font de façon totalement naturelle.
On va poursuivre avec vous, Salman Rushdie. On écoute votre deuxième choix musical. C'est un extrait de The Ground Beneath Our Feet de U2, évidemment. Vous êtes même dans le clip, Salman Rushdie. Voilà, c'était un extrait de The Ground Beneath Her Feet de U2. C'est le deuxième choix musical de Salman Rushdie, qui publie chez Actes Sud 2 ans, 8 mois et 28 nuits. Roman traduit de l'anglais par Gérard Medal. Salman Rushdie, pourquoi avoir crypté de façon finalement assez peu cryptée ces 1001 nuits? Pourquoi avoir eu besoin de décomposer ça en années, en mois et en nuits?
Well, I just thought how long is that?
Je me suis dit, you know, ça fait combien?
Somebody says 1001 nights. I think how long is that?
Ben, you know? En fait, ça fait combien de temps?
So I worked it out.
Donc j'ai calculé.
That's how long it is.
Et voilà, ça donne ça.
Of course, the funny thing is in
bien
the age
sûr,
of the internet.
Drôle, c'est qu'à l'âge de l'internet,
there is always a smart ass, you know.
Il y a toujours un petit malin.
So there's always somebody who writes and
quelqu'un
says,
qui écrit,
but it doesn't work if there's a
mais ça marche pas s'il y a une année bissextile.
And to which the answer is there isn't a leap year.
Et bah, la réponse est il y a pas d'année bissextile.
But the strange thing I'll tell you is
étrange,
after I finished the book, long after when the book first came out,
le livre après l'avoir
somebody
publié,
said to me, how long did it take you to write
quelqu'un
this?
M'a demandé, ça vous a pris combien de temps de l'écrire?
And I worked it out, and it
et
took almost
calculé,
exactly
et ça a pris
that
quasiment cette période de temps.
No,
mais si.
Almost exactly.
Oui, absolument.
That's scary.
Ah, ça fait peur, ça.
Ça fait très peur. On vient d'écouter The Ground Beneath Her Feet de U2. C'est toujours votre ami Bono. Grâce à lui, vous êtes fait applaudir à Wembley, je me souviens, par 80 000 personnes dans le stade de Wembley.
Yes. It's a bigger audience than most book readings.
Oui,
yes.
C'est vraiment une audience plus grande que celle de la plupart des écrivains. Mais cette chanson-là, c'est parce que dans le roman The Ground Beneath Your Feet, il y a un personnage qui écrit, qui compose. Et quand Bono a lu le roman, il a aimé ses paroles et il l'a transformé en chanson. Et donc voilà, j'ai terminé comme ça en étant auteur des paroles d'une chanson de U2. Et c'était vraiment une grosse surprise.
Est-ce que c'est important, Salman Rushdie, qu'aujourd'hui le roman contemporain ne regarde pas avec mépris la pop culture? Est-ce que c'est important que la pop culture arrive vraiment dans le roman pour adultes?
Well, I think that the novelist must know.
Je pense que le romancier doit savoir ce que les gens pensent véritablement. Il faut savoir ce qu'il y a dans le crâne des gens. Quel est le matériau auquel ils pensent? Parce que c'est très difficile de créer un personnage contemporain si on ne sait pas à quoi pensent les gens. Donc il faut savoir quelle est la musique qu'ils ont en tête, quels sont les programmes de télé, à quoi ils pensent. Et pour moi, c'est naturel de le faire. Je ne pense pas que la culture populaire et que la culture importante, élevée, haute, intellectuelle, soit la même chose. Non, je comprends que Shakespeare est différent d'une comédie télévisée. Mais je pense que je dois savoir ce qui intéresse vraiment les gens et quelle est la langue commune. Il y a eu une époque, il y a à peu près 100 ans, où on pouvait faire des références en tant qu'écrivain aux mythes grecs et romains. Et les gens savaient de quoi on parlait. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce que ce n'est plus un langage commun. Mais un petit peu de ces matériaux de culture pop, c'est commun. Et on peut l'utiliser pour faire des références que les gens peuvent comprendre facilement.
C'est-à-dire que le romancier doit ruser avec son lecteur ?
Oh, you have to play tricks on your reader all the time.
Mais il faut ruser avec le lecteur tout le temps, sans ça... Le lecteur sait parfaitement ce qui va se produire. Et ça, c'est un spoiler, quoi.
Vous avez rappelé tout à l'heure, Salman Rushdie, que Scheherazade écrivait contre la mort et qu'elle écrivait aussi pour civiliser le barbare qui était dans son lit. Contre quoi vous écrivez-vous, Salman Rushdie ?
Stupidity.
L'imbécilité.
I think stupidity, there is no end to it.
Je crois que l'imbécilité est sans fond.
And I think we live in very stupid times.
Et je crois que nous vivons dans un temps imbécile.
And if we can... slightly reduce the quantity of global stupidity.
Si on peut réduire, ne serait-ce qu'un peu, cette imbécilité ambiante, ce ne serait pas un mauvais but.
Truthfully, I don't have,
non, mais vraiment,
I don't have a message.
Je n'ai pas de message.
You know, what I think the best books
je crois que
do,
ce que font les meilleurs livres, les livres que j'aime lire,
make a place for the reader
c'est
to be.
De laisser de la place au lecteur pour qu'il puisse y être, un endroit où le lecteur apprécie se trouver et que dans cet endroit, qu'il puisse se prêter à la pensée et à trouver ses propres jugements.
Vous reprenez la définition d'Horace, docere et placere, enseigner et plaire. C'est ça que doit faire le roman.
I think that would do.
Ça pourrait. Un peu de latin à la fin d'une émission, c'est pas mal.
C'est pas mal. Une dernière question, Salman Rushdie. Dans l'épilogue, qui a trait à la notion d'héroïsme, vous parlez des livres ainsi. Cette ancienne forme d'expression qui continue obstinément à exister, les livres. Pourquoi obstinément ?
Because the death of the book has been forecast almost since the birth.
Parce que la mort du livre a été prévue déjà depuis le début de l'existence du livre.
Everything was supposed to kill books.
Tout était supposé tuer le livre.
Radio was supposed
la radio était censée
cinema
tuer le livre. Le cinéma était censé tuer le livre.
Series.
Yes.
Now.
And the internet was supposed
et l'internet était censé tuer le livre.
Were supposed to kill
le e-book est censé tuer le livre.
Instead,
et au lieu de cela. Cet objet est quelque chose que les gens aiment. Les gens aiment ça. Et donc il survit. Il survit simplement parce que les gens l'aiment.
Il y a une question que vous a posée l'écrivain et psychanalyste Michel Schneider à laquelle vous n'avez pas répondu. Et je voudrais voir si vous pouviez répondre pour cette émission. Et puis je vous la repose car après tout, elle s'inscrit tout à fait dans votre livre. Si vous aviez à faire 3 vœux, comme dans les contes, Salman Rushdie.
I have no idea what
aucune idée. Aucune idée ce que je pourrais souhaiter. Parce que vous savez, il y a des règles sur les vœux. On ne peut pas faire comme vœu d'avoir plus de 3 vœux.
I mean, in the novel, dans le djinn roman, says that men
le djinn dit que les hommes sont très limités dans leurs vœux. Ils veulent le pouvoir, l'argent et un organe sexuel un peu plus gros.
And I don't want any of those
moi, je veux aucune de ces 3 choses-là.
Merci Salman Rushdie. Merci beaucoup.
Thank you.
On se quitte avec votre dernier choix musical. C'est un extrait de Walk on the Wild Side de Lou Reed. Walk on the Wild Side, c'est un conseil aux jeunes romanciers ?
Walk on the Wild Side, c'est le titre d'un roman de Nelson Algren qui devait devenir une comédie musicale à Broadway. Ils ont demandé à Lou Reed d'écrire la musique, de composer la musique. Ça ne s'est jamais fait. Et voilà, il a refait une chanson avec des paroles d'Andy Warhol.
Merci beaucoup, Salman Rushdie. Je rappelle le titre de votre dernier livre, 2 ans, 8 mois et 28 nuits. C'est traduit de l'anglais par Gérard Medal. C'est publié chez Actes Sud et je remercie aussi Michel Slotowski qui vous a interprété. Au revoir.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do.
Et c'est le moment de retrouver notre libraire de la semaine. Cette semaine, Perrine Ablin, de la librairie Le Jean Urbain, 60 rue de Belleville, c'est à Paris. Bonjour Perrine Ablin.
Bonjour.
Vous avez choisi de nous parler du nouveau roman de Laurent Mauvignier, donc toujours publié aux éditions de Minuit. Le titre, c'est « Continuer ».
Effectivement, je pense que c'est vraiment un livre à ne pas manquer en cette rentrée. C'est l'histoire d'une femme, Sybille, qui est au bord du gouffre. D'abord parce que elle a l'impression d'avoir emprunté le chemin de l'échec. Son mariage s'est soldé par une séparation difficile. Elle a renoncé à ses ambitions professionnelles. Et puis surtout, son fils Samuel est en perdition totale, tant scolairement que psychologiquement. Et d'ailleurs, un soir de beuverie, il va finir par commettre un véritable délit, un acte terrible. Et donc, pour le sauver, sa mère décide de l'emmener au Kirghizistan, le pays des chevaux célestes, comme on dit. Et c'est au cours de cette chevauchée au cœur d'une nature à la fois superbe et hostile que les personnages vont se révéler et que les fils du passé vont se dénouer. Et donc, on va comprendre au fur et à mesure les implications des actes de chacun des personnages. Et je pense que c'est un livre qui, en ces temps troublés que nous traversons, donne du courage, parce que justement, il interroge les ressorts qui en nous nous permettent de continuer quand le monde s'effondre autour de nous. Et je pense que si ce livre est beau, c'est pas seulement parce que le sujet qu'il traite est intéressant, c'est aussi une question de style. Victor Hugo disait que le grand écrivain, c'est celui dont la pensée occupe tous les recoins de son style. Et dans le texte de Laurent Mauvignier, vous voyez, il parle finalement de sujets qui sont assez communs et universels. Donc l'amour maternel, le rapport à l'autre, le passage de l'adolescence à l'âge adulte. C'est des sujets qui sont assez communs, mais finalement, c'est pas tant le sujet qui compte que la manière dont il le traite. Et il y a une sorte d'évidence, en fait, dans les mots et les expressions qu'il utilise qui rendent le texte véritablement beau et émouvant.
Et les lecteurs de Mauvignier vont retrouver, justement, cette patte, ce ton si particulier. C'est vrai qu'on retrouve, d'ailleurs, aussi, dans Autour du Monde, on était aussi sur plusieurs lieux différents, finalement, ce rythme-là qu'on retrouve entre le Kirghizistan et la France.
Oui, oui, je pense que ça plaira aux lecteurs habituels de Mauvignier. Mais je crois aussi que ça peut toucher un grand nombre de lecteurs parce que, voilà, c'est un texte qui est à la fois un roman initiatique, qui a un côté un peu western. Oui, western. Qui traverse. Oui, parce que quand même, ils sont à cheval. Voilà. Je ne sais pas si Mauvignier est déjà monté à cheval, mais en tout cas, on a l'impression que son style imite la foulée d'un cheval au galop.
Eh bien, merci. Nous allons continuer et galoper. Donc, avec Laurent Mauvignier, c'était votre choix, Perrine Ablin, de la librairie Le Jean Urbain, 60 rue de Belleville. C'est à Paris, Laurent Mauvignier, que vous allez recevoir, je crois.
Oui, le 18 novembre.
Voilà, donc vous êtes ravis.
Aussi. Oui, je suis ravie.
En tout cas, on invite les auditeurs à découvrir votre belle librairie, donc Le Jean Urbain. À bientôt et bonne rentrée à vous, Perrine.
Merci beaucoup.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel, à la technique Olivier Dupré, Alexandre Abergel et Jean-Louis Deloncle. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr cette émission consacrée à Salman Rushdie. Nous avons passé presque une heure avec lui. Je vous dis à la semaine prochaine.